Donc on vient de lire le texte qu'on n'appelle pas le texte de l'Annonciation, parce qu'en général on réserve à Marie, mais c'est quand même une Annonciation. L'Annonciation qui est faite à Zacharie. Alors ce que je vous propose, à nouveau, on va reprendre pas mal de choses, mais on ne va pas forcément suivre chronologiquement. On va commencer juste par des explications de mots. Donc la partie dont je vous parlais, ce qui était de l'ordre du texte en lui-même. On va commencer par parler d'Élisabeth. Donc Élisabeth, c'est important parce que, bon, bien sûr, il y a son rôle, hein, mais son prénom en lui-même a une importance. Parce qu'en hébreu, Élisabeth, ça va se dire Eli Yahou. Et Eli Yahou, ça va vouloir dire la maison ou la demeure de Dieu. Donc on a mon Dieu avec Eli Yahou et Beth, la maison, comme dans Bethléem. Bethléem, la maison du pain, on reviendra tout à l'heure dessus. Élisabeth, la maison d'Eliaou, la maison de Dieu ou la maison de mon Dieu. Mais en même temps, c'est intéressant pour nous de retenir aussi Élie. Parce qu'on a entendu que sur Jean-Baptiste doit descendre l'esprit et la puissance du prophète Élie. C'était au verset, je vais vous retrouver ça, 17. Il marchera devant en présence du Seigneur avec l'esprit et la puissance du prophète Élie. Et si on se réfère au deuxième livre des Rois, au verset 8 à 15, on nous raconte l'histoire du prophète Élie, du moins la fin de l'histoire du prophète Élie. Élie va frapper avec son manteau un fleuve, et je vous laisse deviner de quel fleuve il s'agit, en lien avec Jean-Baptiste, le Jourdain. Donc Élie frappe de son manteau le Jourdain, et qu'arrive-t-il au fleuve? Il se sépare en deux, il s'ouvre, ce qui bien sûr nous fait penser à Moïse. Et on n'est pas sans se rappeler non plus que l'eau, dans la Bible, c'est un symbole de mort. Donc tout comme Moïse se retrouvant devant la mer Rouge, la mer des roseaux, à partir du moment où il se retrouve devant cette mer, se retrouve face à la mort, parce que le peuple ne peut pas traverser, derrière lui, il a l'armée de Pharaon, c'est-à-dire à nouveau la mort ou l'esclavage, il n'y a pas de solution de vie possible. Or, Dieu va ouvrir la mer en deux pour permettre la vie du peuple hébreu. Ici, on a aussi le prophète Élie qui, par la puissance de Dieu, va ouvrir le fleuve en deux. Donc il va lui-même déjà, à ce moment-là, traverser la mort. Et il y a avec lui son disciple Élisée. Donc Élisée va le suivre. Et donc Élie sait que c'est la fin pour lui, qu'il va être enlevé au ciel. Et donc il demande à Élisée, qu'est-ce que tu veux ? Sympa. Élisée lui répond, je voudrais recevoir une double part de l'esprit qui est sur toi. Alors, au début, Élie, il lui dit quand même, enfin, il lui dit pas comme ça, mais t'es gentil, mais ça va pas être facile, quoi. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Élie est enlevé au ciel sur un char de feu. Et il laisse tomber son manteau. Élisée va récupérer le manteau, il veut traverser le Jourdain, il va taper une première fois, mais le Jourdain, il s'ouvre pas. Donc, il va invoquer Dieu en implorant le Dieu d'Élie afin qu'il lui confère la puissance, l'esprit qui était sur Élie. Et il tape à nouveau le Jourdain, et cette fois-ci, le Jourdain s'ouvre en deux, et il peut traverser et retrouver les autres prophètes qui attendaient de l'autre côté du Jourdain et qui se prosternent devant lui. C'est intéressant, parce que la figure de Jean-Baptiste, sur qui donc doit descendre, selon les paroles de l'ange, cette puissance et cet esprit d'Élie, il va baptiser dans le Jourdain. Et donc c'est ce baptême qui déjà préfigure le baptême que nous avons reçu, le baptême que nous avons à la suite du Christ, qui doit nous faire passer de la mort à la vie. Donc déjà, dans la parole de l'ange, c'est présent. Et puis il est à noter aussi que pour une partie du peuple juif, la venue du Messie doit être précédée par une autre venue. Et cette venue, c'est celle du prophète Élie. Je reviens sur quelques mots, parce que j'ai fait une petite digression. Le mot « ange » qu'on voit apparaître au verset 11, « l'ange du Seigneur apparu ». L'ange, c'est le messager. Donc c'est important, ça veut dire que quand l'ange parle, il porte le message de Dieu. C'est le messager de Dieu, il ne parle pas en son nom. Et en son nom propre, c'est-à-dire dans ange, il a sa propre mission qui est déjà définie. Ensuite, Jean, parce que c'est le prénom au verset 13 qui va devoir être donné à l'enfant de Zacharie. Jean, ça vient de l'hébreu Yohanan, qui signifie « Dieu a été favorable » ou « miséricordieux » ou « Dieu a eu pitié ». Donc là, je vous donne plusieurs éléments comme ça, et puis ensuite, on va les lier les uns avec les autres. Et enfin, la dernière chose dans le texte que je voudrais relever pour elle-même, c'est au verset 24. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Et donc, c'est les 5 mois. 5, comme le nombre de livres dans la Torah, dans la loi. Donc, c'est symbolique. 5, dans la symbolique des chiffres bibliques, c'est la loi, c'est la Torah. C'est donc l'accomplissement d'une promesse qui est annoncée. Elle va garder le temps de l'accomplissement de la loi, 5 livres, ou du moins d'expression de la loi. Elle va garder ce secret pour mieux pouvoir le révéler ensuite. Vous voyez comment est-ce que Luc, juste par des mots, déjà, réussit à mettre en place le contexte dont on va parler après, et donne des indices sur la suite des événements. Nous, bien sûr, on connaît la suite de l'histoire, et c'est le but. C'est que, tout en connaissant la suite de l'histoire, on soit capable de comprendre ce que déjà, à ce moment-là, il glisse dans le texte. Et il ne faut pas oublier qu'un auteur de la Bible, c'est un auteur inspiré. Donc, on croit que Saint Luc, comme tous les auteurs bibliques, a écrit sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Ça ne veut pas dire qu'il est rentré dans une forme de transe, comme on peut connaître dans le monde de la Grèce antique. Non, il était tout à fait libre, tout à fait pleinement conscient, mais pas de la profondeur de ce qu'il faisait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui lui échappe. Mais pourtant, il est conscient qu'il est en train d'écrire, il est conscient de ce qu'il écrit. C'est son travail d'historien. Alors maintenant, le contexte. Donc on va revenir au début, verset 5. Il y avait au temps d'Hérode le Grand. Bon, première chose, Hérode le Grand. Hérode, il est né vers à peu près moins 74, on dit aujourd'hui, et il est mort vers l'an moins 4. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'Hérode est mort avant la naissance de Jésus? Il y a deux possibilités. Première possibilité, Luc se trompe. C'est possible, hein? Luc se trompe, et donc Jésus n'est pas né dans ce cas-là Jésus serait né en l'an 0, mais il n'y aurait pas eu à ce moment-là Hérode. Ou alors, c'est que Jésus n'est pas né en l'an 0. C'est la deuxième possibilité. Or, Matthieu fait également mention d'Hérode. Donc, ça nous porte quand même à croire que c'est la deuxième option qui est à privilégier. Et puis, je ne rentre pas dans les détails, mais on sait ensuite que dans les techniques de calcul, il peut y avoir eu, à un moment donné, une erreur d'environ 6 ans. Bon, si c'est 6 ans, ça correspond à peu près. Donc, Hérode le Grand, ou Hérode Ier, c'est le fondateur d'une nouvelle dynastie de rois en Judée, donc les Hérodiens. Avant lui, il y avait les Asmonéens. En tout cas, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ça signifie que ce n'est pas un descendant du roi David. Il n'est pas de cette descendance davidique, contrairement à quelqu'un, on va voir juste après, dont Saint Luc précise qu'il est d'ascendance davidique. C'est Joseph. Mais là, le roi en place ne descend pas de David, qui est le plus grand roi d'Israël, ni donc de Salomon, qui est le roi le plus sage d'Israël. Alors, qui est-il, cet Hérode? C'est quelqu'un qui est proche du pouvoir romain, et ce sont d'ailleurs les Romains qui l'ont placé sur le trône à Jérusalem. Et il a la réputation d'être à la fois un bâtisseur extraordinaire, et le temple de Jérusalem en a largement profité. Le problème, c'est que pour financer ses travaux, il faut lever des impôts. Et qui dit lever des impôts, dit aussi créer potentiellement, si ce n'est pas mesuré, des famines, de la violence, de la pauvreté. Et il est également connu pour sa cruauté. On sait qu'il a assassiné l'une de ses femmes, on sait qu'il a assassiné certains de ses enfants. Chez Matthieu, il y a le massacre des saints innocents. Donc il est aussi connu pour sa cruauté. C'est les deux choses, bâtisseur et cruel. Voilà pour le portrait d'Hérode, portrait sympathique. On a connu mieux quand même. Et maintenant, la Judée. Il est roi de Judée. Donc c'est pour ça que je vous ai donné une carte. D'ailleurs, j'en ai pas gardé un exemplaire, mais c'est pas grave. Parce que la Judée, mais vous allez voir, c'est écrit dessus. Là, c'est pour que vous puissiez repérer. Il y a trois parties. Donc il y a, en fait, par Judée, il faut entendre deux choses. La première chose, la Judée, c'est l'ensemble du territoire sur lequel habitent les Juifs. Donc Galilée, Samarie et Judée. Parce que la Judée, c'est aussi une région. Donc il y a il peut y avoir une ambiguïté quand le terme Judée est utilisé. Est-ce qu'on parle de l'ensemble du territoire ou uniquement de la région? En l'occurrence, il s'agit de la région. Oh, merci. Donc vous voyez que Jérusalem est au cœur de la Judée, qu'au-dessus de la Judée, il y a la Samarie, et au-dessus de la Samarie, la Galilée, où se trouve, mais bon, ça vous le savez, Nazareth. Bon, désolé, c'est un petit peu plus flou que ce que je pensais, mais ça permet quand même de repérer les différents lieux dont on va parler. Donc, il est roi de Judée. Ensuite, maintenant qu'on a vu Hérode le Grand et la Judée, on va voir un petit peu plus loin la question de Zacharie, qui est prêtre du groupe d'Abia. C'est une précision qui est donnée par Luc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il existe 24 classes de prêtres. Et on peut les retrouver facilement, c'est dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 24. À partir du verset 10, il y a les différentes classes sacerdotales qui sont présentées. C'est tous des descendants d'Aaron. Et d'ailleurs, il est précisé aussi qu'Élisabeth est une descendante d'Aaron. Donc ça veut dire que Saint Luc tient à préciser l'appartenance sacerdotale du couple, pas seulement de l'un des deux. Ce n'était pas obligatoire. On n'était pas obligé, quand on était d'une classe sacerdotale, d'épouser une femme qui était elle-même d'une classe sacerdotale. Ce n'était pas une obligation. Il fallait juste que ce soit une Israélite. Mais on n'était pas obligé. En l'occurrence, Luc souligne qu'ils le sont tous les deux. Et donc, Abia, c'est la huitième classe. Donc 8 sur 24, c'est pas mal, quand même. Mais c'est pas non plus les castes sacerdotales qui sont les plus élevées. Donc ça reste non pas un homme de l'élite, mais finalement un prêtre, on va dire, commun. Maintenant, on va voir comment sont définis, c'est au verset 6, Élisabeth et Zacharie, qui décidément sont indissociables, puisqu'ils sont tous les deux d'une caste sacerdotale. Ils descendent donc tous les deux d'Aaron, et ils sont dits l'un et l'autre, juste devant Dieu. Juste devant Dieu, c'est expliqué juste après, ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Donc ça veut dire que vraiment, ils ont cette foi et cette obéissance au commandement de Dieu qui doivent normalement leur permettre d'obtenir la bénédiction de Dieu. Normalement, ils sont bénis de Dieu. Sauf que, on le voit juste après, il s'avère que Élisabeth était stérile. Or, la stérilité, c'est souvent perçu comme une honte. Et on l'entend à la fin, Élisabeth le dit. C'était perçu comme une honte, voire parfois comme un châtiment. Or, la bénédiction de Dieu passait souvent par la descendance, c'était manifesté. On peut lire le livre de Job, par exemple, où on parle de la descendance nombreuse de Job, qui est un signe de bénédiction. C'est souvent le cas. Donc là, on a quand même un paradoxe apparent. On a un couple qui fait tout ce qu'il faut, on va dire, C'est des justes devant Dieu, et pourtant, ils ne reçoivent pas la marque première de la bénédiction de Dieu. Ils reçoivent même ce que certains vont considérer comme un châtiment. Bon, évidemment, on connaît la suite du texte, et on sait que ça va se résoudre. Enfin, dernière chose du contexte que je voudrais relever, et après on fera les propositions de lecture qui vont relier tout ça. La dernière chose, elle se passe dans le temple, au verset 9. Zacharie va offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Donc ça, c'est quelque chose, un acte liturgique dont on connaît le processus. Ça veut dire que Zacharie va devoir traverser un voile, donc le voile du temple. Ce voile du temple, il va être levé pour qu'il puisse passer par un autre prêtre. Et ensuite, donc ça s'ouvre, et une fois qu'il est rentré, on referme. Il ne touche pas. D'accord ? Une fois qu'il est à l'intérieur, Zacharie est rentré avec une coupe d'encens, il doit juste déposer la coupe d'encens et vénérer Dieu, et ensuite il repart. Normalement, c'est extrêmement rapide. Sauf que, et c'est pour ça qu'on comprend mieux maintenant l'étonnement de ceux qui attendent, sauf qu'en fait, il traîne. Il ne repart pas tout de suite. Donc forcément, il s'est passé quelque chose. Ils ne peuvent pas voir parce que le voile a été redescendu. Et puis vous savez qu'il est rentré dans le Saint des Saints, donc personne d'autre ne va rentrer. Le grand prêtre peut rentrer dans le Saint des Saints, ou alors le prêtre qui officie, en l'occurrence Zacharie. Mais personne d'autre ne va s'aventurer dans le Saint des Saints à ce moment-là. Là on raconte même, mais ça je n'ai pas retrouvé de source, mais on raconte qu'il arrivait qu'on accroche avec une corde le prêtre au cas où il ferait un malaise. Parce que s'il fait un malaise, il faut qu'on puisse le tirer. Bon, je ne sais pas, Zacharie ne devait pas avoir de corde, parce que peut-être qu'il aurait tiré avant la fin. Mais toujours est-il que là, il se demande ce qui se passe. Et nous, on le sait. Et donc ça, c'est aussi un effet assez génial de la part de Luc. C'est-à-dire qu'il nous place le contexte à la fois de ceux qui sont à l'extérieur et en même temps la réalité de ce qui se vit à l'intérieur. Comme ça, on peut voir la tension entre Zacharie, qui est en présence de Dieu dans le Saint des Saints, qui a cette apparition de l'ange, le messager, qui vient lui annoncer quelque chose d'absolument incroyable, et le peuple qui attend avec les prêtres dehors et qui dit « il se passe un truc, mais on ne sait pas quoi ». Et vous avez remarqué, quand il sort, il est muet. Donc il peut essayer d'expliquer, mais ça reste de l'ordre du mystère. Ce qui se passe dans le Saint des Saints reste de l'ordre du mystère, quoi qu'il arrive. Alors maintenant, quelques propositions de lecture. Si on reprend un petit peu la situation politique et géographique de la Judée, on voit qu'on est dans un contexte de tension, il y a de la division. Le royaume est loin d'être en paix. Il y a la question de l'Empire romain qui est présent, et vous savez qu'il y a notamment les Zélotes qui luttent contre l'Empire romain. Les Juifs sont divisés entre eux, tant dans le domaine religieux, il y a différents courants qui sont présents, mais ils sont aussi divisés dans le monde politique. Je vous parlais de la question des impôts. Donc on voit bien que là, il y a quand même, comme on dit des fois, une poudrière, quoi. C'est clairement pas un lieu apaisé. Et pourtant, bah, c'est dans ce lieu que va naître Jésus. Et c'est Jésus qu'on appelle, depuis le livre d'Ésaïe, le prince de la paix. Donc on voit comment est-ce que ce contexte semble pas du tout approprié pour faire venir le Christ, mais en même temps il résonne avec autre chose. Il résonne avec la mission de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, on le verra un petit peu après, mais il doit aplanir les chemins du Seigneur. Donc il doit préparer aussi ce terrain-là pour que le Christ puisse venir. Et qu'est-ce qu'il fait? On le verra encore plus tard, mais lorsqu'il baptise dans le Jourdain, il invite à la conversion. Donc il invite aussi à une pacification de la société. Ensuite, les paroles de l'ange, donc le messager de Dieu. Qu'est-ce qu'elles annoncent? Elles annoncent la venue de temps nouveau, parce que l'esprit et la puissance d'Élie seront bientôt de retour sur un homme, et le prénom de cet homme signifie, on l'a vu, Dieu a eu pitié. Jean. Et à nouveau, c'est intéressant de se dire que Dieu a pitié, il envoie un homme, et il l'envoie au milieu de ce contexte où il y a une miséricorde qui est importante, parce que ce n'est pas forcément ce qui est vécu dans le quotidien. Donc la mission de Jean, elle est clairement dite. Il doit préparer, ce qu'on disait, la venue du Seigneur. C'est un accomplissement qui est à venir, hein, que Luc va donc souligner par les 5 mois de grossesse. On a dit les 5 mois, c'était un accomplissement qui était en devenir. Donc c'est ça. L'accomplissement en devenir, c'est la venue de ce messager qui est Jean-Baptiste, qui va lui-même annoncer le Christ. Troisième proposition de lecture, elle est par rapport à Zacharie, le doute de Zacharie. Parce que, finalement, pourquoi est-ce que Zacharie se trouve muet ? L'ange lui dit, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Et assurément, hein, c'est la remarque que fait Zacharie, comment vais-je savoir cela ? Qui devient, ironiquement, le signe que ça va arriver. Il demande un signe. L'ange lui donne un signe. Tu ne parles plus. Il y a une forme d'ironie, en fait. Donc, si c'est de l'ironie, et si c'est le signe qui est donné, ce n'est pas à percevoir comme une punition. Ce n'est pas du tout une punition, même. C'est plutôt une préparation de la parole que Zacharie aura à donner au moment de la naissance de Jean-Baptiste. Et enfin, la dernière proposition de lecture. Il y a plusieurs cas de naissance miraculeuse dans l'Ancien Testament. Et comme à chaque fois, hein, la stérilité, on l'a dit, elle est perçue dans une dynamique de malédiction ou de mort. Or, cette fois-ci, grâce à l'intervention de Dieu, elle cède la place à une nouvelle dynamique, qui est une dynamique de vie. Donc là où la vie semble impossible à l'homme, elle est possible à Dieu. Et donc c'est déjà une préfiguration du mystère pascal qui est là. On verra juste après une autre naissance miraculeuse, celle de Jésus. À chaque fois, c'est la même chose. Là où il ne devait pas y avoir la vie, où ça semble impossible à l'homme, ben c'est possible à Dieu. D'ailleurs, l'ange le dit après, car rien n'est impossible à Dieu. Et pour les hommes, il semble impensable, on peut penser aux disciples d'Emmaüs, que Jésus, qui est mort sur la croix, soit autre chose que mort, et pourtant de cette mort naît la vie par la résurrection. Donc on voit cette préfiguration.